VOA Afrique, les infos à Washington.
Avec vous Henri Francisque, 13h à Dakar, 14h à Kinshasa, bienvenue à notre journal. Élection RDC, une délégation du Conseil œcuménique des Églises en visite dans le pays a exprimé son inquiétude sur le processus électoral censé conduire à l'organisation de la présidentielle du 23 décembre. Les membres du groupe sont particulièrement préoccupés par la question des électeurs inscrits sans empreinte digitale, le manque de confiance concernant l'utilisation de la machine à voter et le problème des prisonniers et des exilés politiques. Par ailleurs, des manifestations pacifiques sont prévues à partir de lundi 3 septembre en RDC. Objectif, sauver le processus électoral dans le pays, affirme le mouvement citoyen Lucha, lutte pour le changement, qui a lancé mardi un appel en ce sens dans 14 villes congolaises. Les revendications des jeunes militants pro-démocratie consistent en cette demande. Les détails avec Thierry Kambundi de Top Congo FM, notre station partenaire à Kinshasa.
Non satisfaite des avancées que connaît le processus électoral et du faible taux d'application des mesures de décrispation politique que prévoit l'accord de la Saint-Sylvestre, la Lucha, lutte pour les changements, annonce une série de manifestations à partir du lundi 3 septembre courant. L'objectif selon ces jeunes est d'obtenir des autorités du pays la prise en compte et l'application de leurs revendications qu'ils résument en cette exigence pour sauver le processus électoral. Il s'agit notamment de l'abandon de la machine à voter, de la libération des prisonniers politiques et d'opinion et de l'espace politique congolais, de la cessation de ce qu'ils qualifient de poursuites judiciaires motivées contre certains opposants pour un processus électoral plus inclusif, de la fiabilisation du fichier électoral, de la levée de l'interdiction de manifester et de la réouverture de certains médias privés fermés depuis plus de 2 ans maintenant. Au cours de ce point de presse organisé mardi simultanément dans 14 villes de la RDC, la Lucha appelle à des manifestations pacifiques pour faire entendre sa voix. Kinshasa, Thierry Kambundi de Top Congo FM pour VOA Afrique.
Au Congo-Brazzaville voisin, le pasteur Ntomi a été vu pour la première fois en public. C'était au village de Miété, dans la région du Pôle, près de Brazzaville, où il a rencontré une délégation gouvernementale. L'ex-chef rebelle a invité les membres de la commission de paix à s'occuper prioritairement de son cas personnel, avant de procéder au ramassage des armes dans le Pôle. De Brazzaville, plus de détails avec le correspondant de VOA Afrique, Arsène Séverin.
C'est un pasteur Ntomi serein et rassuré, habillé en jean bleu, que les membres de la commission de paix ont rencontré à Miété dans le district de Kindamba. Dans un échange réservé, les deux parties ont évoqué leurs difficultés dans la mise en œuvre de l'accord de paix conclu en décembre 2017. Pour Séraphin Ondélé, le président de cette commission, Ntomi doit mettre la main dans la pâte pour permettre le ramassage des armes encore entre les mains de ces miliciens.
Nous croyons que vous êtes devenu un homme de paix. Nous venons vous dire, ma commission et moi, nous venons vous dire que nous sommes limités. Nous avons travaillé, oui. Nous sommes fiers d'avoir travaillé. Et maintenant, nous sollicitons que vous preniez le relais parce que c'est vous qui avez signé les accords de paix. Nous sommes que des ouvriers. Maintenant, nous sommes bloqués.
Le chef rebelle du Pôle a indiqué que le ramassage des armes n'était pas une priorité. Il fallait s'attaquer au mal à la racine. Ntomi s'est lui-même présenté comme le premier ex-combattant à réinsérer.
Et ce n'est pas le ramassage des armes qui va assurer les gens, mais ce sont les cœurs des gens. J'ai des enfants comme vous aussi, vous avez des enfants. À bientôt, il va pleuvoir. Comment je vais faire? Je vais repartir dans la forêt, trouver encore les feuilles pour faire encore des huttes. Et quand je vous rappelle ça, vous allez transformer pour dire que non, voilà, il pose des conditions, voilà ce qu'il dit, voilà, c'est peut-être qu'il ne veut pas, voilà, voilà. Alors que nous avons signé, c'est la partie gouvernementale qui a bloqué. Si nous sommes détenteurs d'une arme et que nous avons fait la paix, cette arme ne sert à rien. Nous devons la déposer, nous devons la remettre. Ce n'est pas ce qui est plus important. On peut remettre une arme, mais la situation qui a provoqué qu'un tel prenne une arme, si on ne l'a pas réglée, finalement c'est comme si ce qu'on a fait, on était comme des animaux seulement qui se sont battus.
C'est pour la première fois depuis le déclenchement du conflit dans le Pôle en avril 2016 que le pasteur Ntomi s'est montré en public. Par ailleurs, aucun agenda précis de l'opération du ramassage des armes n'a été arrêté. Arsène Séverin, Brazzaville, VOA Afrique.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Au Zimbabwe, la Cour constitutionnelle a commencé à examiner aujourd'hui la requête de l'opposition visant à annuler l'élection du président sortant Emmerson Mnangagwa pour cause de fraude électorale. Une délégation de l'opposition a exigé aujourd'hui devant la Cour constitutionnelle cette annulation et accuser le gouvernement de fraude et la commission électorale de manipulation des résultats. Les 9 juges de la plus haute instance juridique du pays doivent rendre leur verdict d'ici à vendredi. La requête déposée par le parti MDC a conduit au report de la cérémonie d'investiture du président Mnangagwa initialement prévue le 12 août. Si la Cour constitutionnelle confirme sa victoire, cette investiture doit se tenir dans les 48 heures qui suivent cette décision. Et toujours concernant les élections en Afrique, à Madagascar, la haute Cour constitutionnelle fait état d'au moins 46 candidatures pour la présidentielle qui se tiendra à la fin de l'année. Y participeront notamment les 3 derniers présidents du pays. Le point avec Irénée Herman Umbo.
La plus haute instance judiciaire de la Grande Île annoncera d'ici à dimanche la liste officielle des candidats autorisés à participer au scrutin des 7 novembre et 19 décembre prochains. Parmi les nombreux postulants, il y a l'actuel président R. Rajomanapiam, élu il y a 5 ans, et ses deux prédécesseurs, Ange Razoel et Mac Ravalomanane. Ces deux frères ennemis passés à l'opposition avaient été interdits de participer au dernier scrutin suite à un accord pour mettre fin aux crises à répétition dans ce pays pauvre de l'océan Indien. M. Ravalomanane avait été contraint en 2009 de quitter le pouvoir après un coup de force de l'armée qui avait alors placé son jeune rival Radjoel à la tête du pays. Il y a aussi d'anciens premiers ministres et même l'ex-président Didier Ratsirak, à 81 ans, qui avait dirigé le pays d'une main de fer de 1975 à 1993.
Afrique de l'Ouest maintenant, Human Rights Watch, l'organisation de défense des droits humains basée à New York, a dénoncé mardi le climat de peur instauré par les agences de sécurité au Nigeria. Deux journalistes y sont jugés actuellement pour l'exercice de leur profession. Raissa Girondin.
Plusieurs arrestations et détentions récentes de journalistes au Nigeria suggèrent une tendance inquiétante à la répression de la liberté d'expression, affirme Human Rights Watch. John Sabiri, du Weekly Source Newspaper, a été arrêté par l'Agence nationale de renseignement et gardé au secret pendant 2 ans sans procès pour ses liens présumés avec des rebelles du delta du Niger. Il a été libéré sous caution le 16 août. Son procès commencera le 5 septembre à Abuja. Samuel Ogundimpe du site en ligne Premium Times a été arrêté à la mi-août, puis libéré sous caution après avoir dévoilé un rapport confidentiel sur la prise de contrôle du Parlement par des agences de sécurité. Il doit comparaître demain devant la justice. Human Rights Watch appelle les autorités nigérianes à mettre fin à tout harcèlement de journalistes et veiller à ce que les membres de la presse puissent opérer sans peur.
Et pour terminer l'actualité aux États-Unis, le président américain Donald Trump a essuyé mardi un double coup dur judiciaire avec son ancien avocat impliqué devant un juge et son ex-chef de campagne reconnu coupable à son procès près de Washington. Les détails avec Jean-Roger Bion.
Deux juridictions différentes pour deux affaires distinctes, mais qui menacent d'atteindre directement le locataire de la Maison-Blanche. À New York, Michael Cohen, l'ex-avocat personnel de Donald Trump, a plaidé coupable de 8 chefs d'accusation pour fraude fiscale et bancaire et pour violation des lois sur le financement des campagnes électorales. Il a reconnu avoir versé 130 000 et 150 000 dollars à 2 femmes affirmant avoir eu une liaison avec le milliardaire républicain en échange de leur silence et ce à la demande du candidat. Objectif, éviter l'ébruitement d'informations qui auraient porté préjudice au candidat. Cet aveu est une réelle bombe pour celui qui a finalement remporté la présidentielle de 2016, car il sous-entend qu'il pourrait avoir lui-même commis un délit. Quasiment au même moment, dans un parallélisme judiciaire saisissant, le tribunal d'Alexandria près de Washington a reconnu Paul Manafort, un ancien directeur de campagne de Donald Trump, coupable de fraude bancaire et fiscale. Le jury n'a prononcé qu'un verdict partiel, ne parvenant pas à s'accorder sur 10 des 18 chefs d'accusation pesant contre l'ancien sulfureux lobbyiste. Donald Trump a tenu hier à rappeler que cette décision judiciaire n'avait en soi rien à voir avec une éventuelle collusion qu'il nie farouchement depuis des mois, dénonçant une chasse aux sorcières. Où est la collusion, a-t-il demandé à ses supporters lors d'un meeting de campagne pendant la soirée. L'issue de ces deux audiences représente néanmoins une victoire bien qu'incomplète pour le procureur spécial Robert Mueller et affaiblit la position du président américain dans l'enquête sur l'ingérence russe dans l'élection présidentielle de 2016. D'autant que l'information judiciaire se poursuit malgré les appels incessants de la Maison-Blanche qui souhaite y voir mettre un terme.
Merci de votre attention. Plus d'infos sur notre site internet voaafrique.com. Vous pouvez également nous joindre sur notre page Facebook. Restez à l'écoute de VOA Afrique.